Sur des sites militaires et nucléaires, l'État hébreu qui se prépare aussi à la riposte. On appelle notre correspondant à Jérusalem, Sami Bourlifa, et notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi, à 6h, temps universel. Vous suivez la situation d'ici là avec notre direct en ligne sur RFI.fr. Et tout de suite, c'est le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
En football, 4 équipes africaines en lice sur 32 engagées. La Coupe du Monde des clubs dans les starting blocks.
Début samedi aux États-Unis de la toute nouvelle compétition de la FIFA. Le Wydad Casablanca, l'Espérance de Tunis, la Al-Ahly du Caire et les Mamelodi Sundowns en représentants africains. La formation sud-africaine fière et ambitieuse à l'approche de ce mondial, en tout cas à entendre son entraîneur, le portugais Miguel Cardoso.
Everybody's pretty proud.
Tout le monde est très fier d'un côté de participer à cette compétition, mais en même temps, il y a cette responsabilité. On veut bien faire. Évidemment, nous savons où nous nous situons, mais nous connaissons aussi nos ambitions et là où nous voulons aller. Et c'est aussi un test pour nous. À quel niveau sommes-nous vraiment ? Parce qu'on sait qu'en Afrique, on est l'un des plus grands clubs, mais on veut aussi comprendre à quel niveau on peut évoluer face à d'autres réalités dans le monde. Donc à cette compétition, nous souhaitons venir avec la joie d'être africain, la fierté de représenter l'Afrique du Sud, mais aussi nous voulons montrer au monde que notre football et de haut niveau.
High level football also.
Les Mamelodi Sundowns qui évolueront dans un groupe F a priori abordable en compagnie des Brésiliens de Fluminense, du Borussia Dortmund et des Coréens d'Ulsan HD, leur premier adversaire lundi à Orlando.
En Guinée, choc au sommet du championnat.
Le Hafia, deuxième du classement face à Oroya, leader avec 8 points d'avance. À 5 journées de la fin, ce grand derby de Conakry pourrait constituer un tournant décisif pour un Oroya en quête de rachat depuis plusieurs saisons, Tiernoya Diallo.
C'est sans doute le match le plus important de la saison pour le Oroya de Conakry. Et les Rouges et Blancs n'ont jamais été aussi proches du titre depuis 2 saisons. Mais attention, en face, il y a le Hafia, vice-champion de Guinée en titre et plus sérieux concurrent. Nous, Ndiane, ancien coach du stade malien de Bamako, aujourd'hui sur le banc du Oroya.
On est tous conscients de l'enjeu et c'est le message que nous avons transmis aujourd'hui. C'est une obligation pour nous quand même de faire un bon match. Cela veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas perdre quoi. Donc c'est un match qui est important et ça nous permettra quand même de rester sur cette dynamique-là. Nous espérons que les choses vont mieux se passer.
D'Aldur depuis 2 ans, le club de la proche banlieue de Conakry a dû se réinventer. Entre difficultés financières et interdiction de recrutement infligée par la FIFA, il a fallu trouver l'équilibre pour un retour en force aux affaires. Soufiane Soare, président du club.
Entre les académiciens et l'équipe première, ça s'est fait de manière stratégique, ça s'est fait de manière intelligente parce qu'on travaille sur ce projet il y a cela maintenant un peu plus de 10 ans. Les fruits de cette académie commencent au jour d'aujourd'hui à émerger au niveau de l'équipe première. Ils sont en train de faire de très belles choses au niveau de l'équipe première.
Le savant mélange entre quelques anciens qui sont restés fidèles et les jeunes issus du centre de formation a permis au Oroya de réaliser jusqu'à présent une belle saison et une victoire ce vendredi lui rapprocherait davantage du titre. Tiernoya Diallo, Conakry, RFI.
En cyclisme à présent, Antoine, victoire allemande sur la 8e étape du Tour du Cameroun.
Et Jan Munzer s'impose au terme des 160 km courus entre Douala et Kribi. Le maillot jaune reste sur les épaules du Camerounais Boris Michel Tientche, 12 secondes devant l'Algérien Islam Mansouri. Aujourd'hui, c'est repos.
Et puis de l'athlétisme pour finir, Marie-Josée Talou a presque tenu la dragée haute à la championne olympique du 100 mètres.
L'ivoirienne a brillé au meeting d'Oslo en Norvège sous les yeux de Monsieur Usain Bolt, guest star de la soirée. Talou a pris la deuxième place du 100 mètres. Seule la championne olympique de Sainte-Lucie, Julianne Alfred, est parvenue à la devancer en 10,89. Chez les messieurs, sur le 800 mètres, victoire d'Emmanuel Wagnoni, le champion olympique en titre.
Merci Antoine Grenier, tout à l'heure. 5 jours de discussion pour mieux protéger le berceau de la vie sur Terre et un grand bleu qui recouvre 70% de la surface de notre planète. À Nice, dans le sud de la France, la conférence des Nations Unies sur l'océan se termine aujourd'hui. Elle aura notamment permis d'avancer vers l'entrée en vigueur d'un traité de protection de la haute mer. Elle a aussi été le théâtre d'un appel lancé par 95 pays pour limiter la production plastique et donc la pollution des mers. Quel bilan faire de cette conférence? On va se le demander aujourd'hui et demain et on commence déjà avec notre grande invitée Afrique, la chef de la délégation congolaise à Nice, ministre d'État et ministre de l'Environnement et du Développement durable en République démocratique du Congo, Eve Bazaïba Massoudi, est au téléphone de Christophe Boisbouvier.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous retenez de cette troisième conférence de l'ONU sur l'océan?
Ben, c'est vraiment une initiative très importante parce que ça nous permet de mobiliser davantage les soutiens politiques de très haut niveau aux initiatives africaines et surtout susciter un élan de développement et accélérer les investissements sur les infrastructures portuaires. C'est ce qui nous manquait, et renforcer la gouvernance océanique. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons présenté le fait que la montée des eaux de la mer, par exemple, où le pays insulaires sont en danger. C'est une conséquence logique du réchauffement de la planète. Donc on ne peut pas dissocier la conservation, la protection des forêts et la gestion durable donc, de nos mers. Et dans cette optique-là des partenariats gagnant-gagnant, la République démocratique du Congo, tout en étant victime de la situation dont elle n'est pas responsable, apporte une solution. Les forêts, les ressources en eau, les minerais critiques ou stratégiques. Et de l'autre côté, les autres pays qui vont venir en partenariat avec nous vont apporter le fonds, le transfert des technologies. Voilà un partenariat gagnant-gagnant qui va sauver l'humanité.
Donc il faut une coopération scientifique et des transferts de technologies.
Tout à fait, parce que les populations seront obligées de changer leurs habitudes. Nous qui sommes à la fois pays forestiers et pays qui a accès vers la mer, nous devons changer nos habitudes dans la conservation des forêts, dans la gestion durable des océans. Par exemple, la lutte contre la pollution plastique, par exemple la protection des mangroves, par exemple arrêter l'agriculture itinérante sur brûlis, ne plus utiliser à outrance les bois comme énergie. Et ça demande des moyens, ça demande des fonds. Parce que protéger la RDC, c'est sauver l'humanité. La RDC ne peut pas être un pays qui fait face à des conflits, par exemple, pour nous distraire. À l'est du pays, vous avez vu où il y a des vautours qui viennent pour l'exploitation illégale, illicite de nos ressources minières. Nous avons besoin de la paix et d'une paix durable.
Ève Bazaïba Massoudi, vous avez parlé de la pollution plastique. Alors, l'un des moments forts de cette conférence de Nice a été l'annonce que 95 pays soutenaient le projet d'adopter un traité ambitieux pour réduire la production de plastique et donc la pollution des mers. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle fait partie de ces 95 pays?
Nous soutenons ces traités tout en disant que c'est un processus. On n'est pas là pour les stopper directement, ces plastiques. Nous allons y aller progressivement, c'est l'approche de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que des bouteilles en plastique, il y a plusieurs sortes de plastiques, y compris des pneumatiques, n'est-ce pas? En passant même par les jouets des enfants et autres ustensiles de cuisine, etc. La récupération, la transformation, le recyclage, etc. C'est comme ça que nous, nous sommes dans ces processus dans notre pays.
Est-ce que la RDC est dans les 95 ou pas?
Nous sommes dans les 95 pays. Nous sommes dans ce processus-là, nous l'avons commencé, bientôt il y aura les négociations qui vont continuer à Genève. Nous sommes là, nous faisons partie de cela.
Le problème, Madame la Ministre, c'est que le plastique, il est fait à partir du pétrole et que beaucoup de pays pétroliers, comme la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, eh bien, ils sont opposés à cette limitation de la production de plastique.
Vous savez, eux aussi vivent le revers de la main de tous les procédés polluants qui sont en train de les utiliser. Tout ce que nous allons faire, c'est la conscientisation. Parce que si nous ne prenons pas garde, nous risquons de vivre l'hécatombe, y compris ces pays-là. Alors, nous devons y aller étape par étape, leur demander, par exemple, d'appuyer le processus de récupération de ces plastiques, le processus des déchets, et étape par étape, lorsque nous allons stopper la consommation, ben, lorsqu'il n'y aura plus de demandes, l'offre ne viendra plus.
Oui, mais ce que disent beaucoup, c'est qu'il ne suffit pas de gérer les déchets plastiques, il faut aussi réduire la production des plastiques.
C'est ce que j'ai dit, l'offre et la demande. Lorsque nous n'aurons plus des besoins de plastique et ils ne vont plus avoir l'intérêt à produire.
Oui, c'est ça. Il faut remplacer le plastique par autre chose.
Par les matières biodégradables. Au niveau des emballages déjà, nous allons mettre des barrières sur la consommation des plastiques. Nous qui sommes des importateurs, nous allons arriver jusqu'à la limitation donc, de l'entrée des plastiques dans notre pays, ou en commençant d'abord par exiger des plastiques recyclés localement. Je pense que la demande va diminuer. Il y aura plus d'intérêt de fabrication, donc l'offre va s'arrêter de soi-même.
Ève Bazaïba Massoudi, je vous remercie.
La ministre de l'Environnement et du Développement Durable en République démocratique du Congo, grande invitée Afrique de RFI Matin avec Christophe Boisbouvier.
RFI Matin.
Et comme chaque matin de la semaine, un œil sur l'actualité des matières premières. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
À quelques semaines du début de la récolte de blé dans l'hémisphère nord, c'est toujours la déprime du côté des céréaliers européens. Les prix du blé tendre, utilisé pour fabriquer la farine et le pain, ont chuté pour atteindre un seuil symbolique.
Et oui, on parle du prix du blé européen qui sera livré en septembre et qui s'achète et se vend dès aujourd'hui. Ce blé est pris dans une spirale baissière depuis le mois de février. La tonne qui s'échangeait à 240 euros à ce moment-là est aujourd'hui tombée à 200 euros. Le mouvement est général car la demande internationale est assez timide. On assiste donc aussi à un essoufflement des prix à la bourse de Chicago, l'autre référence importante pour le prix des céréales. Mais en raison de la hausse de l'euro par rapport au dollar, le blé européen est moins attractif, moins compétitif que le blé russe ou ukrainien et donc plus difficile à vendre.
Parmi les facteurs qui pèsent sur les prix du blé, il y a la perte du marché algérien.
Oui, avec la hausse de l'euro, c'est le facteur qui alimente la baisse des prix, car la demande pour les blés français s'est effondrée en Algérie, et la France étant le premier producteur européen, l'impact est important. Depuis 2020, l'Algérie s'est ouverte au blé russe, les exportations françaises vers cette destination ont logiquement très vite chuté, mais elles se sont quand même maintenues à environ 1,8 million de tonnes par an, jusqu'à cette dernière campagne qui se termine. L'Algérie n'a acheté que 30 000 tonnes de blé français, autant dire quasiment rien. Et les perspectives d'une reprise sont maigres depuis le soutien affiché par Emmanuel Macron à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La solution pour les Européens, c'est de trouver des marchés ailleurs, mais là encore, la hausse de l'euro complique la tâche des exportateurs.
Les prix du blé sont tirés vers le bas, eux aussi, parce que le marché est tout simplement rassuré.
Oui, parce qu'il reste des volumes disponibles à commercialiser dans l'hémisphère sud et que les productions de l'hémisphère nord s'annoncent bonnes, que ce soit en mer Noire, en particulier en Russie, mais aussi en Europe, avec un record annoncé en Roumanie et une récolte en France qui s'annonce bien meilleure que celle catastrophique de l'année dernière. Au prix actuel, le blé n'est en tout cas plus rentable pour les agriculteurs européens. Il faudrait 35 à 40 euros de plus par tonne pour qu'un agriculteur français, par exemple, couvre ses coûts de production.
Marie-Pierre Olfan pour les matières premières. Merci beaucoup. Bientôt 6h en temps universel dans moins de 5 minutes. Un nouveau point sur les frappes israéliennes en Iran cette nuit. D'abord, on reparle de l'autre info de ce matin. Cette décision d'un juge aux États-Unis d'interdire le déploiement de la garde nationale à Los Angeles, immédiatement suspendue un peu plus tard par une cour d'appel. 4000 militaires réservistes, mais aussi quelques 700 marines ont été envoyés dans la deuxième ville du pays par Donald Trump face aux heurts violents en marge des manifestations contre les expulsions de migrants par la police de l'immigration. Une actualité qui fait la une depuis une semaine et qui génère aussi forcément beaucoup de désinformation. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Dans les dessous de l'Infox, on parle aujourd'hui de la confusion et des fausses infos qui entourent la situation à Los Angeles. Et parfois, ce sont les intelligences artificielles, les agents conversationnels comme ChatGPT ou Grok qui viennent semer le trouble.
Oui, deux photos ont retenu notre attention. Elles ont provoqué une polémique sur les réseaux sociaux. Des images montrant des soldats américains allongés sur le sol, en train de dormir les uns contre les autres, dans ce qui semble être un poste de sécurité ou le sous-sol d'un bâtiment. Ces photos ont été vues des centaines de milliers de fois, rien que sur le réseau X, et elles ont été partagées par le compte du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui, comme vous le savez, s'est opposé à Donald Trump à propos du déploiement de l'armée américaine dans les rues de Los Angeles.
Et c'est un compte très suivi.
Oui, il a plus de 2 200 000 followers rien que sur X. Dans son commentaire, il dénonce les conditions déplorables dans lesquelles les soldats seraient logés et il s'adresse directement à Donald Trump. Il écrit, je cite, « Vous avez envoyé des troupes ici, sans carburant, sans nourriture, sans endroit pour dormir. » S'il y en a un qui manque de respect à notre armée, c'est bien vous.
Alors ces images sont-elles réelles ?
Alors cette question, beaucoup d'utilisateurs d'Internet se la sont posée et ils s'en sont remis à l'avis de Grok, l'IA d'Elon Musk. et ils ont interrogé aussi ChatGPT, par exemple. Juste après le partage de ces images, ces agents conversationnels ont affirmé que ces clichés semblaient montrer le retrait des soldats américains d'Afghanistan à l'aéroport de Kaboul durant l'été 2021.
Et Olivier, certains ont donc pensé que le gouverneur avait menti.
Oui, mais après vérification, c'est l'IA qui s'est trompée. Ces images sont bien réelles, elles ont été prises à Los Angeles et publiées par un journal sérieux, le San Francisco Chronicle, dans son édition du 9 juin. La rédaction assure qu'elle a obtenu ces deux clichés en exclusivité et qu'ils montrent des soldats en train de se reposer dans différents immeubles fédéraux qu'ils sont chargés de protéger. Une recherche par image inversée permet d'établir que ces photos n'ont jamais été mises en ligne avant le 9 juin dernier, donc elles ne peuvent pas avoir été publiées il y a 4 ans lors du retrait d'Afghanistan. Donc attention, Grok ou ChatGPT ne sont pas des outils de fact-checking.
Pourtant, les vrais exemples de désinformation ne manquent pas à l'occasion de cette crise.
Avec des images générées par IA, comme celle de Bob, ce soldat américain censé avoir été déployé pour protéger Los Angeles. Il se filme dans la ville en mode portrait et répand de fausses informations. Ces images ont fait le tour des plateformes, mais il s'agit d'un personnage entièrement créé par des outils d'intelligence artificielle. À bien observer la vidéo, on peut noter d'ailleurs certaines incohérences, comme le grade du soldat qui ne correspond à rien de connu, les couleurs des feux de circulation à l'arrière-plan, ou encore les lettres LAPC sur une voiture de police, alors que c'est LAPD, Los Angeles Police Department, qui est inscrit en lettres noires sur fond blanc sur les véhicules de police de la ville.
Merci Olivier Four. Allez, dessous de l'Infox, l'émission, c'est ce soir comme chaque vendredi à 17h30 temps universel. On vous retrouve aussi sur RFI.fr. C'est là également que vous suivez notre direct après les frappes israéliennes en Iran cette nuit. On en reparle dans une minute à la une du journal. À tout de suite.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain avec le podcast La Relève du Rire. Plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.